Il est grand, c'est un canyon, c'est le Grand Canyon, et c'est ce dont on va parler dans ce 11e épisode de Partir un jour. Partir un jour sans retour. Partir un jour, c'est un podcast mensuel dans lequel Aurélie et moi abordons une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Bonjour Aurélie.
Bonjour Rémi.
Le Grand Canyon, on l'a découvert au cours de notre road trip dans l'Ouest américain qu'on a effectué au mois d'octobre. Et on l'a découvert juste après le Zion National Park, un autre parc national des États-Unis, qui est lui aussi un canyon. Et on est arrivé au Zion National Park juste après avoir quitté Las Vegas et la Valley of Fire dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Deux canyons donc, mais nos attentes par rapport aux deux étaient assez différentes, je pense. D'une part parce que le Grand Canyon, il y a l'aura qui l'entoure, qui fait que c'est un lieu mythique avant même qu'on y arrive, vers lequel on a beaucoup d'attentes. Et le Zion National Park, qui lui est peut-être un peu plus confidentiel quand on ne connaît pas bien les États-Unis. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu beaucoup parler avant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les deux, on s'attendait à en prendre plein les yeux.
C'est vrai qu'on avait pas mal d'attentes pour notre arrivée au pays des canyons. Zion National Park, c'était comme toi, je ne connaissais pas du tout. Il faut dire qu'on hésitait entre Zion et Bryce Canyon, qui est un autre parc. Il y a beaucoup de parcs dans cette zone-là, donc quand on passe par là, bah, soit on les fait tous si on a le temps, soit on a l'embarras du choix. Et au moment de choisir entre les deux, j'avais lu pas mal de témoignages qui disaient que Zion était plus intimiste et voire plus impressionnant que Bryce Canyon. Beaucoup de personnes avaient été vraiment charmées par ce lieu, donc on s'est dit, bah, go, on y va. Sur place, je pense que du coup, mes attentes étaient un peu haute par rapport au lieu, et c'est vrai que sur Zion j'ai eu une légère déception. Je m'attendais à plus, même si c'était déjà beaucoup. Bah, j'avais construit dans mon imaginaire quelque chose qui était sans doute encore mieux. Et donc finalement, ce que j'ai préféré dans Zion, c'est la route qui serpente à travers la montagne avant de plonger dans le canyon, où là, effectivement, c'était impressionnant. Il y avait des roches qui étaient striées de façon assez régulière. Là, c'était impressionnant pour le coup. Et bah, je regrette finalement à refaire, je chercherais plutôt des promenades à faire comme ça sur le dessus du plateau, sans spécialement passer toute la journée dans le canyon qui est très joli, mais c'est cet endroit-là que j'ai préféré. Bon, après le Grand Canyon, par contre, c'était exactement l'inverse. Chaque fois que j'envoyais des photos, j'avais vraiment du mal à me représenter la grandeur du lieu et je me disais, bah pff, oui, c'est un trou, c'est un gros trou. Je n'avais pas cette impression de grandeur. Et c'est vraiment une fois arrivée au pied que là, j'ai été soufflée par le lieu et je me suis fait « Ah, ah oui, quand même, c'est complètement démesuré. » Eh ben oui, j'ai pris ma claque.
Ben moi, concernant Zion, c'est vrai qu'on a un peu partagé nos ressentis pendant le voyage et on avait à peu près le même. C'est-à-dire que tous les deux, face à Zion, on a ressenti une petite déception. Attention, je ne dis pas que c'est complètement nul, c'est pas là l'idée. Au contraire, ça reste quand même un paysage exceptionnel, il faut le remettre dans son contexte, c'est un endroit incroyable. Mais par rapport à ce qu'on en attendait, et surtout par rapport au Grand Canyon qu'on a pu voir après, c'était pas l'expérience qu'on attendait. Le Grand Canyon, pour moi, c'était aussi différent, parce que lorsque j'étais allé à Las Vegas, il y a un peu moins de 10 ans, j'en avais profité pour faire une excursion de Las Vegas jusqu'au Grand Canyon, et donc j'avais déjà découvert le lieu une première fois, j'avais déjà pu être impressionné par l'immensité du gouffre, et du coup, bah, j'étais beaucoup moins surpris la deuxième fois, forcément. Mais on n'est pas allé au même endroit et du coup j'ai pu découvrir différentes facettes du Grand Canyon. Il faut savoir que le Grand Canyon se divise en plusieurs zones, vu à quel point il est étendu. C'est une faille énorme qui défigure toute une partie de l'ouest des États-Unis, comme une immense cicatrice. Et de pouvoir s'y pencher, que ce soit au nord, au sud, ou comme j'avais fait il y a 10 ans, donc plutôt à l'ouest, on n'a pas tout à fait la même vue, on n'a pas tout à fait les mêmes impressions. Et à chaque fois, ça apporte sur l'autre surprise. Du coup, même la deuxième fois, je trouve que ça fait encore son petit effet, même s'il faut que je précise que le Grand Canyon n'a jamais été en réalité ce qu'il était dans mon imaginaire, c'est-à-dire que moi je l'imaginais rouge, un peu à la Monument Valley qu'on voit dans les westerns. Or, il y a beaucoup de végétation sur le Grand Canyon, et par période, il est même assez vert, de par les herbes, de par les arbres. Donc c'est vrai qu'on n'est pas face à une roche rouge immaculée, comme on avait pu le voir avant dans la Valley of Fire, ou comme on a pu le voir après dans Monument Valley.
Oui, c'est vrai que le Grand Canyon présente plusieurs couleurs et des fois même il est blanc. On a eu la chance d'y passer juste après une... Bah, je pense que ça devait être les premières chutes de neige de l'année. Et ben justement, je pense que ça a été un coup de cœur pour tous les deux de découvrir le Grand Canyon. Alors déjà la route qui arrive, on était dans la brume, il y avait la neige, c'était toute une ambiance. Et puis on devinait le canyon sur le côté.
C'était toute une ambiance parce que j'étais pas super à l'aise de conduire sur une route un peu enneigée et qu'on n'avait pas de chaîne et j'avais un peu peur de glisser. Mais oui, c'est vrai que c'était toute une ambiance.
Et bah finalement, avec cette brume, Le premier arrêt qu'on a fait ce jour-là, quand on est arrivé au bord du Grand Canyon, on ne voyait strictement rien. C'était un écran blanc devant nous.
Oui, on était vraiment au bord du canyon. Et c'est quelque chose de très bizarre de se retrouver face à un des plus grands gouffres du monde et de ne pas le voir, de ne pas voir le gouffre alors qu'on est juste devant lui.
Et voilà, parce que finalement, bah, il a 1300 mètres de profondeur et bah, vers le bas, on voyait 3 mètres. Et devant nous, bah, rien. Et de temps en temps, on distinguait au loin une petite ouverture dans les nuages, un petit peu de roche, et ça se refermait directement. Et puis d'un seul coup, bah, vraiment d'un seul coup, ça s'est dégagé et bah, il est apparu. Et c'était justement le coucher du soleil. On dit que les couchers de soleil au Grand Canyon sont assez incroyables, et effectivement, c'est pas mal. Le soleil qui accentue les reliefs dans le fond, avec la roche qui reste rouge en dessous de la végétation, qui flamboie un petit peu, c'est quelque chose à voir.
Je pense que pour tous les deux, plus qu'un lieu, je pense que ce qui a beaucoup joué dans ce coup de cœur, c'est aussi finalement parce qu'on est arrivé au bon moment sur place, et qu'on a pu vivre le moment pleinement.
C'est exactement ça, parce que à ce moment-là, on était côté sud, et si je dois partager un coup de cœur en dehors de circonstances particulières, là, ce serait clairement le côté nord, qui est beaucoup plus nature, un peu moins touristique que le côté sud, qui est vraiment le gros spot où tout le monde va. Côté nord, on voit beaucoup moins bien la rivière. Il y a quelques endroits où on peut la voir, mais globalement, elle est cachée. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça un peu dommage, mais le canyon en lui-même reste immense et impressionnant. On l'a découvert par le nord et ça a été une vraie émotion de le découvrir. Donc, comme quoi, ne pas voir la rivière, ça n'empêche pas d'avoir quand même le petit choc qui va bien, le petit choc de la découverte. Mais c'était surtout l'accès au Grand Canyon avec une route qui est assez longue où on passe dans une forêt. Entre conifères et trembles, on était en automne, les feuilles commençaient à jaunir. C'était très nature, très beau. Et j'ai vraiment apprécié l'ambiance plus calme, plus nature qu'il y avait de ce côté-là.
Mais ça, les différentes zones du Grand Canyon, on va en parler plus en détail dans nos conseils de visite.
Je vous signale que nous survolons actuellement le barrage Hoover et que dans quelques instants, nous passons juste au sud du Grand Canyon. En attendant, détendez-vous et profitez agréablement de votre voyage.
Comme je l'ai dit en introduction, notre premier arrêt, ça a été le Zion National Park, auquel on est arrivé après Las Vegas. On a fait la route depuis la Valley of Fire, en partant assez tard le soir, et donc on a fait quasiment toute la route dans le noir, en suivant les instructions du GPS. Il faut savoir que les routes aux États-Unis sont très peu éclairées, il n'y a pas vraiment d'éclairage public à proprement parler, et du coup, bah, le paysage autour de soi disparaît rapidement et on ne voit rien de ce qui nous entoure. Et on s'est rendu compte que le GPS avait choisi de nous faire traverser le Zion National Park. Et le traverser de nuit, ça a vraiment été toute une expérience. Parce que bon, on devait suivre la route qui était sinueuse et qui tournait dans tous les sens pour monter et pour descendre de la montagne. On voyait pas le gouffre qui nous entourait. Moi, personnellement, vu que c'était moi qui étais au volant, je m'attendais, depuis qu'on avait croisé un ours au parc de Sequoia, à ce qu'il y en ait un qui débarque au milieu de la route et que je dois freiner au dernier moment. Enfin bref, je m'attendais à ce qu'on croise des animaux un peu partout. J'étais vraiment pas à l'aise, surtout qu'on est arrivé finalement à plus de 23 heures.
Surtout, on était assez crevés après les aventures de Las Vegas et on ne sait pas si c'est le GPS qui s'est emmêlé les pinceaux lors de la prise de l'itinéraire qui a pris le plus court au lieu du plus rapide ou si c'est nous qui avons fait une erreur en calculant notre itinéraire de base avant le voyage pour voir combien de temps ça allait nous prendre. Ou si dans une des opérations, quelqu'un a oublié de compter le fait qu'il y a une heure de décalage entre le Nevada et l'Utah, qui est l'état dans lequel le Zion National Park se trouve. Toujours est-il qu'à l'heure à laquelle on pensait arriver à notre motel, bah on s'est rendu compte qu'il restait encore une heure de route.
Et donc c'est peut-être notre premier conseil, c'est que si vous venez en voiture depuis la zone de Las Vegas pour aller jusqu'au Zion National Park, prenez bien en compte ce décalage horaire, prenez bien en compte le temps de trajet et prenez vos précautions pour ne pas arriver comme nous complètement crevés jusqu'au motel. Il faut savoir que pour découvrir tant le Zion National Park que le Grand Canyon côté nord, on avait décidé de loger à Kanab, qui est une petite ville de l'Utah, dans laquelle on ne trouve pas grand-chose, mais qui était idéalement placée pour aller tant à l'un qu'à l'autre. Il y avait une petite heure de trajet, je pense, pour aller au Zion National Park, un peu plus pour aller jusqu'au Grand Canyon, mais finalement ça se faisait assez bien en une journée. Et donc le lendemain, la première chose qu'on a décidé de faire, ça a été de visiter Zion.
Zion, il faut savoir que la partie principale du parc où se trouvent la plupart des points d'intérêt, c'est dans le fond du canyon, c'est le long de la rivière qui a creusé le canyon. Et la seule façon de parcourir cet endroit, c'est via une route qui est fermée en haute saison. Et pour la parcourir, il y a un service de navette qui est mis en place. des navettes très régulières, c'est vraiment très efficace comme service. On n'attend jamais plus de 5 minutes à un arrêt avant d'être prise en charge. Il faut également savoir que, bah, curieusement, le Zion, s'il n'est pas très connu par chez nous apparemment en Amérique, c'est un endroit où les gens aiment bien aller passer le week-end. Nous, on avait notre visite qui tombait un dimanche et il faisait beau et le parc était vraiment pris d'assaut. Quand on est arrivé, il était milieu de matinée. On a cru qu'on n'allait pas réussir à se garer.
On a fait plusieurs fois le tour du parking du centre d'information jusqu'à se dire qu'on allait chercher des informations pendant que l'un de nous attendait dans la voiture. Et heureusement, il y a finalement une place qui s'est libérée pour qu'on puisse garer la voiture. Mais c'est vrai qu'il y a un monde fou.
On s'est même demandé si on n'allait pas devoir repartir sans pouvoir se garer. Parce qu'en dehors de ce parking, c'est pas spécialement évident de trouver où s'arrêter. Enfin bon, on a réussi à garer la voiture, on a pris notre navette et donc direction le canyon. La première promenade qu'on a fait, c'était Emerald Pool. Donc on avait vu des photos au Visitor Center, ça avait l'air assez sympathique. Une espèce de petite cascade qui ruisselait le long d'une avancée rocheuse. Alors, on était en saison sèche, donc j'avais été trouver un ranger en lui demandant est-ce qu'il y a quand même de l'eau, est-ce que ça vaut la peine d'aller jusque-là, parce que bon, point de vue cascade, jusqu'à présent, on n'avait pas été spécialement gâtés. Et le ranger m'a dit non, il n'y a pas de souci, il y a de l'eau toute l'année, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc on a pris notre navette, on a commencé notre promenade pour arriver à une cascade qui était complètement sèche.
Oui, il y avait un mince filet d'eau qui s'écoulait de la cascade. L'avantage, c'est qu'on pouvait passer en dessous sans être trop mouillé, en ayant quand même un peu l'eau fraîche de la cascade sur nos têtes. Et en même temps, il faisait un peu frais dans ce canyon, donc il ne fallait pas rester trop longtemps en dessous. Dans le Zion National Park, comme dans beaucoup de parcs nationaux américains, il y a vraiment des balades pour tous les âges, pour tous les types de promeneurs. C'est vrai qu'on voyageait avec un enfant en bas âge, donc on ne voulait pas non plus faire de l'escalade ou des longs treks avec un fort dénivelé. La Lower Emerald Pool, c'était vraiment la balade idéale parce que finalement, on était dans la nature, mais les chemins étaient asphaltés.
Les sentiers accessibles pour tous sont souvent asphaltés et aménagés. Bah, justement, ça fait partie des balades accessibles pour tous, donc il y a des sentiers prévus, mais si vous partez à l'aventure, ne vous inquiétez pas, vous aurez un chemin de terre accidenté, il n'y aura pas de soucis, c'est pas asphalté partout.
Mais du coup, pour nous, c'était bien. Et c'est vrai que si le but de la balade, la cascade, était un peu décevante, au moins la balade en elle-même correspondait à nos attentes.
C'était sympathique de se promener dans la nature. Maintenant, l'autre point d'intérêt de Emerald Pool, c'est les Emerald Pool. Bon, on les a pas vus. Je ne sais pas si on a raté quelque chose parce qu'on attendait la cascade ou si elle n'était pas visible à cette saison ou si elle se situait dans la partie upper de la promenade qui, elle, était fermée parce qu'il y avait eu quelques inondations récemment et donc le sentier n'était pas accessible.
En y repensant, c'est quand même dingue. C'était la période sèche, il y avait eu des inondations et on n'en a même pas profité.
C'est le principe des flash floods, il fait sec, mais il y a une averse qui arrive et c'est fini. En un temps record, l'eau balaye tout. Et puis après, on repart en mode sécheresse. Après, comme toujours dans les parcs américains, sur une promenade, on a vu une collection d'écureuils qui, curieusement, venaient voir du côté des marcheurs, ce qui est toujours amusant et agréable à observer.
L'étape suivante, ça a été Big Bend, un des arrêts les plus loin dans le canyon, puisqu'à partir de là, on pouvait voir le fameux Angel's Landing, qui se nomme ainsi parce qu'en fait, quand on l'a découvert, on a trouvé que la falaise était si haute qu'il n'y avait qu'un ange qui pouvait se poser à son sommet. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé, puisque c'est un des trails les plus fréquentés de tous les parcs nationaux. Un trail assez difficile qui demande de la préparation, mais qui donne accès à des superbes points de vue sur le parc de Zion. Malheureusement, nous, on n'était pas dans le cadre de pouvoir le faire, puisqu'avec un enfant, c'était quasiment impossible.
Oui, c'est un trail qui est assez difficile. Il y a des passages qui sont assez délicats, donc ça demande de la préparation, ne pas y aller n'importe comment. Et avec un enfant, c'est juste trop risqué, c'est pas possible.
J'ai lu d'ailleurs qu'il y avait eu plusieurs décès sur ce sentier, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc nous, on s'est contenté finalement de l'admirer depuis le fond du canyon. Pas longtemps, parce que si la vue était sympa, finalement on était plus attiré par la rivière qui coulait un peu plus loin, et on a préféré aller se promener au bord de la rivière et observer le paysage depuis là, et c'est vraiment là que je pense qu'on a eu notre meilleur moment au Zion.
Ouais, c'est vrai qu'au bord de la rivière, avec les falaises qui se reflétaient dans l'eau, la vue était très jolie. On doit être honnête, c'était plutôt sympa. Et on a passé quelques minutes assez agréables à observer le paysage depuis cet endroit.
Après ça, après avoir marché un peu au bord de la rivière, on est reparti avec la navette jusqu'au bout vraiment du canyon, donc à l'arrêt qui s'appelle Temple of Sinawava. Même si sur place, on n'a pas vu de temple, peut-être que si on avait fait la promenade, on serait tombé sur un temple de pierre, j'en sais rien. Nous, finalement, on n'a pas fait la promenade parce que la journée était trop avancée pour qu'on commence à faire une autre balade. Et on est juste arrivé jusque-là pour voir le fond du Zion National Park et repartir directement avec la prochaine navette pour revenir jusqu'au centre d'information.
Donc c'est comme ça qu'on a terminé notre journée au Zion National Park. Le lendemain, on a pris la direction du Grand Canyon côté nord. J'en ai déjà parlé dans mes coups de cœur, mais on a traversé la forêt de Kaibab côté nord, qui est absolument magnifique, surtout en automne avec ses trembles aux feuilles jaunes qui enflamment un peu le lieu de leur couleur. Arrivé au Grand Canyon, la première chose je pense que tout le monde fait, c'est aller au bord de la falaise observer le gouffre. Il faut savoir qu'au Grand Canyon, peu importe le côté où on se trouve, il y a énormément de promenades à faire. Les plus faciles se contentent de longer la falaise en restant au-dessus, jusqu'à la fameuse traversée du Grand Canyon pour laquelle là, il faut être bien motivé, bien préparé. Parce qu'apparemment c'est assez long, assez compliqué, surtout la fin où il faut remonter de l'autre côté. Donc nous, en arrivant, on a commencé par faire la promenade de Bright Angel Point, qui permet d'accéder à un petit point de vue qui permet d'observer le canyon. Après ça, l'heure était assez avancée parce que la route depuis Kanab était plutôt longue, donc on s'est contenté de faire le carnet d'activité pour avoir notre badge de Junior Ranger, en attendant l'heure d'aller manger.
Ce qui est bien avec la balade de Bright Angel Point, c'est qu'elle permet déjà d'avoir une bonne vue, tout en restant à proximité du centre d'information et du restaurant qui y est associé. Donc si on sait qu'on n'a pas pris de sandwich avec soi, c'est très bien pour commencer la journée et puis se restaurer juste après. Et pour l'après-midi, plutôt que de rester dans cette zone-là, on avait vu qu'il y avait une autre balade qui se faisait assez facilement avec des enfants, qui était un peu plus loin, donc il fallait reprendre la voiture et refaire un peu de route pour aller jusqu'au point d'intérêt qui s'appelait Angel's Window. Il y a un peu des anges partout dans les parcs où il y a des canyons, ce qui peut se comprendre parce que quand on voit les paysages magnifiques qui sont là, on se met à la place des gens qui ont découvert ces paysages pour la première fois. Ils ont tous dû se faire cette remarque qu'effectivement, il n'y avait que des anges qui pouvaient marcher sur des sommets aussi hauts. Et donc on a repris la voiture, je pense qu'il y avait 45 minutes pour arriver jusqu'à Angel's Window. C'était un peu long, mais par contre les paysages qu'on traversait étaient encore une fois magnifiques avec cette forêt. On a même vu encore des cerfs et des biches, même si on commençait à être blasé, je pense que c'est le point où on commençait à être blasé d'en voir, mais on en apercevait assez facilement à travers les arbres. On a fait un arrêt sur le chemin parce que j'avais repéré un parking à partir duquel on avait aussi une autre belle vue sur le Grand Canyon, donc on s'est arrêté là pour admirer la vue. Et ensuite on a continué pour aller directement jusqu'à Angel's Window. Comme d'habitude, tous les points d'intérêt possèdent leur propre parking, donc on n'a aucun problème pour se garer. Le seul problème finalement qu'on a eu pour se garer, c'était vraiment au parc national de Zion. Mais au Grand Canyon, on n'a pas eu ce problème.
Surtout le côté nord qui est moins touristique, on était presque les seuls. À une ou deux exceptions près, on n'a pas vu grand monde.
Angel's Window, donc c'est encore une balade qui est très courte. À pied, ça se fait franchement en un quart d'heure, 20 minutes, je pense qu'on l'avait fait. Et le plus ironique, c'est que quand on y est, on ne voit pas Angel's Window. On ne l'a vraiment vu que quand on est arrivé avant le parking ou quand on est reparti, parce que de là, on voit la falaise sur laquelle on marche, une falaise dans laquelle il y a un trou, comme une fenêtre. On voit à travers la falaise, et ça, on ne le voit pas du tout quand on est sur place et qu'on marche sur cette falaise, cet aplomb rocheux, où on marche vraiment jusqu'au bord du gouffre. Heureusement, il y a des grillages et des rambardes tout du long, donc on ne risque pas trop de tomber. Mais c'est vraiment impressionnant aussi d'arriver ici jusqu'au bord. Je pense que c'est la fois où on s'est retrouvé le plus au bord du Grand Canyon. J'ai pas eu la même impression de me retrouver au bord du gouffre quand on a été voir le côté sud.
Ça conclut un petit peu notre approche du côté nord. Après ça, on est parti sur Page et Monument Valley, donc ce sera le sujet du prochain épisode. Mais tant qu'on est à parler du Grand Canyon, on va aborder notre passage du côté sud, qui a eu lieu plus loin dans l'itinéraire. Le côté sud, on l'a déjà dit, c'est le côté le plus touristique. Quand on parle d'aller au Grand Canyon, c'est souvent à cet endroit-là que la plupart des visiteurs vont. Quand on arrive sur place, ce sont effectivement des infrastructures qui sont visiblement destinées à accueillir plus de monde. Ça se voit en arrivant directement.
Il y a beaucoup plus de parking, les centres d'accueil sont beaucoup plus grands.
Il y a plusieurs solutions de logement directement sur place.
Donc c'est vraiment beaucoup plus développé.
Il y a effectivement des petites différences entre les différents côtés du canyon, sinon je pense que les visites seraient probablement beaucoup plus réparties. Le côté nord se situe plus haut en altitude, donc il est globalement plus vert, c'est pour ça que je pense que la forêt est aussi jolie de ce côté-là. Par contre, je l'ai déjà dit, mais du côté nord on voit beaucoup moins la rivière dans le fond du canyon. La rivière qui est dans le fond, on le rappelle, c'est la Colorado River. Donc côté sud, on est plus bas, il y a moins de végétation, mais on a une vue sur la rivière beaucoup plus présente, on la voit vraiment bien pour le coup. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent préférer cette vue-là justement parce que la rivière rajoute quelque chose. C'est vrai que la rivière rajoute quelque chose. Maintenant, les ambiances du côté nord, personnellement, ont quand même ma préférence. On peut peut-être rapidement, tant qu'on y est, parler rapidement du côté ouest que tu as fait lors d'un précédent voyage.
Oui, le côté ouest, c'est celui auquel on accède quand on vient de Las Vegas, que ce soit pour le survoler en hélicoptère ou en voyage organisé avec un bus. C'est la partie du canyon qui est vraiment gérée par les Navajos. Du coup, on pénètre dans la réserve quand on va de ce côté-là. Le côté ouest est surtout connu pour son skywalk, donc qui est une espèce de plateforme transparente sur laquelle on peut marcher pour vraiment marcher au-dessus du Grand Canyon, ce qui doit être assez impressionnant. Moi j'avoue que je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait payer encore un supplément pour le faire et je trouvais qu'on voyait déjà très bien le Grand Canyon en étant juste au bord. Il n'y avait pas besoin d'aller en plus marcher sur une plateforme vitrée pour ajouter un peu des frissons. Le côté ouest partage avec le côté sud la particularité de se faire en navette, c'est-à-dire qu'on arrive là, il faut laisser son véhicule, j'imagine, moi j'étais en bus, pour pouvoir faire le tour des différents points d'intérêt, il faut emprunter une navette et s'arrêter à chaque fois, ce qui se fait très bien, comme au Zion National Park. Et si j'avais à l'époque été impressionné par le Grand Canyon, j'avais eu une petite réticence par rapport aux Navajos eux-mêmes, je trouvais qu'ils se mettaient un peu en scène et de manière pas forcément avantageuse pour les touristes. Moi ça m'avait même fait de la peine, je trouvais que cette réutilisation de leur culture simplement pour les touristes était un peu déplacée.
Il n'y a pas vraiment de côté est au Grand Canyon. Apparemment, on associe un petit peu Horseshoes Bend, qui est un site de pêche qu'on va aborder dans le prochain épisode, au côté est, mais ça ne fait pas partie du Grand Canyon. Ça se situe à 7 miles à l'est. Donc, rien à dire sur le côté est. Donc, je vais reparler du côté sud. On l'a dit, le côté sud se fait en navette. Pareil, les navettes suivent la falaise et s'arrêtent à différents points d'intérêt. Donc, on avait la chance d'avoir fait le côté sud au moment du coucher du soleil. Et le brouillard s'était levé, donc une fois dans les navettes, on a bien profité de la vue du canyon qui flamboyait sous le soleil couchant. Et donc je le redis, c'est vrai qu'un coucher de soleil au Grand Canyon, c'est quelque chose d'assez impressionnant à voir.
Nous, dans le South Rim, on a fait la navette rouge, qui fait différents arrêts, hein, je ne vais pas vous donner tous les noms, mais donc il y a le Maricopa Point, The Abyss, Monument Creek Vista, Prima Point.
C'était la séance name-dropping.
Et donc nous on a été là, et l'arrêt qu'on a fait, je pense que c'était Monument Creek Vista, parce que c'était réputé pour être le lieu où pouvoir admirer le mieux le coucher de soleil, et c'est pour ça qu'on a été là.
Et je pense qu'on ne l'a pas regretté, c'était très joli. Il faut savoir que notre passage sur la South Rim, on a fait un détour en fait lors d'un trajet. On passait pas loin, donc c'était l'occasion d'aller faire un saut de ce côté-là pour découvrir le Grand Canyon sous un autre jour. Mais on n'avait pas spécialement le temps de faire des promenades ni de passer beaucoup de temps sur place. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait quelques arrêts et points de vue pour admirer le paysage, mais ça s'arrêtait là.
Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire si on a une journée, voire plus à consacrer sur place. Nous, c'est vrai qu'on arrivait de Monument Valley dans la journée et donc on avait juste même qu'une fin d'après-midi pour en profiter.
Donc ça conclut un petit peu nos conseils d'itinéraire sur le Grand Canyon et Zion National Park. Maintenant, on a quand même quelques conseils pratiques à ajouter.
Je dois m'introduire au cœur de Sion et tu dois me dire comment je dois faire.
Pour venir à Zion National Park, on n'a pas trop le choix. Je pense que si on n'a pas de voiture, je ne sais pas du tout comment on y arrive. Je pense que c'est le seul moyen, malgré le fait que les parkings soient déjà bien engorgés certains jours. Pour le Grand Canyon, c'est un peu différent. Comme je le disais, on peut y venir depuis Las Vegas, en tout cas côté ouest, que ce soit en hélicoptère, que ce soit en bus ou aussi en voiture. Le côté nord, le côté sud, on y vient en voiture. Le côté sud, on peut aussi y venir en train. Assez bizarrement, il y a un vieux train qu'on a vu à Williams, qui manifestement partait de Williams, qui arrivait jusqu'au Grand Canyon. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les faits, mais si on avait eu l'occasion de le faire, je pense que ça nous aurait bien plu de pouvoir le faire. Et donc, le Grand Canyon, on peut le découvrir de plusieurs manières, en partant de plusieurs endroits. Nous, c'est vrai qu'en logeant à Kanab, ça se faisait très bien. Je pense qu'on n'a pas regretté d'avoir logé à Kanab et de pouvoir aller à la fois au Zion National Park, à la fois au Grand Canyon côté nord. C'était vraiment très pratique.
Oui, surtout que Kanab est une petite ville très agréable, j'ai trouvé. C'est une ville qui est clairement prévue pour les touristes. Il y a quelques motels, quelques restaurants, mais le tout était assez chouette. On a pu manger dans un restaurant qui n'était pas franchisé, ce qui est assez rare pour qu'on le souligne. Et la ville est à cette image, une petite ville touristique sans prétention, mais où il fait bon passer un jour ou deux.
Pour le côté sud, on ne logeait pas du tout à proximité. Ça se trouvait juste sur notre route entre Monument Valley et Flagstaff. Donc c'est pour ça qu'on y a fait un arrêt rapide. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de conseils donnés pour y loger. Tout ce qu'on peut préciser, c'est que dans tous les parcs qu'on a cités, tant Zion National Park que le Grand Canyon côté nord ou côté sud, à chaque fois, il y avait possibilité de loger sur place, même si, à mon avis, il faut avoir les moyens.
Oui, j'avais regardé les tarifs pour le côté nord par curiosité. De mémoire, on était autour de $200 la nuit, donc ça fait une somme pour des logements qui ne sont pas plus confortables que le reste des motels. Après, on est sur place, c'est vrai que ça peut être un avantage.
Oui, se réveiller le matin en étant à deux pas du Grand Canyon, ça doit être aussi une expérience inoubliable.
Donc si on a les moyens, pourquoi pas. Nous, on a préféré dormir à Canap sans aucun regret. Concernant la nourriture dans ces parcs-là, il y avait chaque fois un restaurant où il est possible de manger pour des tarifs qui restent assez corrects. Bon, après, ça reste de la nourriture américaine, donc burger pour tout le monde.
Il y a aussi de dogs.
On a bien rigolé en commandant un Grand Canyon Burger au côté nord, ça nous a beaucoup amusé. Mais bon, enfin voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus. Après, si vous voulez éviter de manger dans ces restaurants, il faudra prévoir quelque chose avant d'aller dans les parcs, parce qu'il n'y a pas de solution pour faire ses courses à l'intérieur des parcs, en tout cas sur Zion et Grand Canyon côté nord. Côté sud, ben, on n'a pas cherché vu qu'on n'en avait pas l'utilité, mais à mon avis, vu l'attrait touristique du lieu, il doit probablement y avoir une supérette. À vérifier si vous voulez réellement vous reposer là-dessus, mais ça ne serait pas étonnant.
Il faut surtout prévoir les choses un peu à l'avance, parce que même autour de ces parcs, à plusieurs kilomètres à la ronde, il n'y avait même plus rien pour acheter quelque chose. Quand on va au côté nord, on roule des kilomètres, loin de toute pompe à essence et loin de tout commerce.
Bah finalement, Canap, c'était la dernière ville avant le Grand Canyon, à une heure de route.
Si on s'est contenté de faire les promenades dans les parcs, il y a aussi d'autres activités dans le Grand Canyon, que ce soit de s'y promener à vélo, sur des ânes, bien sûr l'hélicoptère, hein, qui reste un grand classique pour ceux qui ont les moyens, et en rafting si on décide d'aller plutôt en bas du Grand Canyon et de naviguer sur la Colorado River. Dans tous les cas, je pense qu'il faut faire attention à réserver en avance, parce que forcément le Grand Canyon, c'est un lieu qui rencontre beaucoup de succès, et donc il ne faut pas espérer trouver des bons plans de dernière minute.
Et prévoir également un budget en conséquence, parce que ces activités sont vite à des tarifs assez élevés. C'est clairement à budgétiser en amont.
Du côté de Zion, même si on l'a dit tous les deux, on a été assez déçus. Je pense que c'était aussi par notre mode de découverte, parce que d'y aller avec des enfants, je pense que c'est pas le lieu idéal. Maintenant, si on avait été tous les deux, qu'on avait été un peu mieux préparés, qu'on avait fait les meilleures balades, je sais pas si on aurait fait le Angel's Landing Trail, parce qu'il était quand même compliqué, mais il y avait d'autres balades qui étaient sympas et qui auraient peut-être pu nous plaire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines balades font traverser la Virgin River à gué, donc on n'est pas complètement sous l'eau, mais il faut s'attendre à avoir un peu plus que les pieds mouillés.
Voilà, les promenades qu'on a faites étaient donc les promenades accessibles à tous, donc il y avait des ponts, mais certaines promenades sont clairement indiquées comme avec passage à pieds nus ou chaussures mouillées. Il y a d'ailleurs des photos des promeneurs au milieu de la rivière. Il paraît que ce sont des très belles promenades qui valent le détour, mais bon, nous, il faisait un petit peu frais, et on n'avait pas spécialement le temps, mais ça fait partie des promenades pas trop compliquées qui sont fortement conseillées dans Zion.
Tu le dis, il faisait un petit peu frais. Au point de vue de la météo, le mois d'octobre, si voyager dans l'ouest des États-Unis à cette période-là, ça se fait très bien. Il faut quand même dire que c'est vraiment dans le Grand Canyon qu'on a eu le plus froid. Et déjà à Zion National Park, malgré le soleil, on n'avait pas chaud.
Ben on l'a dit, dans le Grand Canyon, côté sud, on a carrément eu de la neige. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et côté nord, le thermomètre était clairement aux alentours de zéro.
Oui, d'ailleurs, quand on a retrouvé une pompe à essence pour faire le plein, j'ai dû casser un peu de glace pour sortir le racloir de la pompe à essence pour nettoyer un peu le pare-brise, tellement il faisait froid.
Le dernier point auquel faire attention, c'est l'heure de décalage qu'il existe entre l'Utah et le Nevada et l'Arizona. C'est un point auquel faire attention, surtout si vous logez dans les régions un petit peu frontalières. Apparemment, ça arrive que les téléphones soient un petit peu perdus et ne savent plus très bien à quelle heure ils doivent se mettre. Et donc, vous pouvez avoir une mauvaise heure indiquée sur votre portable. Donc, bien faire attention sur ce point, surtout si vous réservez des visites, parce que bah, arriver avec une heure de retard, ce serait dommage.
Oui, d'ailleurs, comme on l'a dit, ça nous est arrivé quand on est arrivé à Canab avec une heure de retard après toute la route dans le noir. Parce qu'on avait prévenu le motel qu'on arrivait à une certaine heure et on arrivait bien plus tard. Est-ce que c'était seulement à cause du décalage horaire? Peut-être pas. Mais du coup, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient laissé les clés sur la porte. Il n'y avait plus personne à l'accueil, la porte était fermée et il y avait une enveloppe avec mon nom sur la porte d'entrée. N'importe qui aurait pu prendre les clés, heureusement il n'y a personne qui est passé. Manifestement, c'est quelque chose qui se fait assez souvent aux États-Unis. Nous, ça nous a surpris, mais voilà, si vous arrivez en retard quelque part dans votre motel, il se pourrait que vous ayez la même expérience que nous, vous allez trouver les clés attachées dans une enveloppe sur la porte d'entrée. Du coup, entre ce qu'on s'imaginait et la réalité, il y avait quand même une grande différence, surtout au point de vue de Zion National Park. C'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup et on a été déçus. Du coup, forcément, on est un peu échaudés, je pense pas qu'on aurait l'un comme l'autre envie d'y retourner. Ce qui ne m'empêche pas de me poser la question de savoir si on n'est pas passé à côté de quelque chose, parce que j'ai beau en reparler à quelqu'un qui y allait et qui me dit que ça a été un de ses plus beaux souvenirs de voyage, je me dis mais comment ça se fait que moi j'ai pas vécu la même chose? Ou quand je vois des photos sur d'autres blogs et qui sont vraiment des paysages magnifiques, je me dis bah c'est quand même bizarre. Je pense que si on reste vraiment au fond du canyon, on passe à côté de quelque chose. Il faut prendre de la hauteur pour vraiment apprécier le lieu dans toute sa splendeur. Pour ce qui est du Grand Canyon, là par contre, je me pose pas trop la question, j'ai vu le côté ouest, j'ai vu le côté nord, j'ai vu le côté sud, je crois que j'ai vu tous les côtés, donc à mon avis j'ai plus besoin d'y retourner. C'est une expérience magique de le voir la première fois. La deuxième fois, c'est encore sympa, mais voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Même le survolant en hélicoptère, ça ne me vend pas du rêve, donc je pense que je m'arrêterai là pour le Grand Canyon.
Bah moi je suis assez d'accord avec toi sur Zion, la sensation d'être passé à côté de quelque chose, mais j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Je crois que si je retourne dans le coin, j'irai d'abord voir Bryce Canyon, qui était donc l'autre parc avec lequel on hésitait. Maintenant, bah, si je suis dans le coin, effectivement, pourquoi pas tenter une promenade plus en hauteur, essayer d'affronter mes démons et de découvrir Zion sous un meilleur jour. Ce serait peut-être l'occasion. C'est vrai qu'il y a pas mal de parcs en Utah, il y a un road trip apparemment qui se fait très bien aussi dans ce coin-là, donc pourquoi pas un jour ? Je ne suis pas complètement fermée à l'idée. Concernant le Grand Canyon, j'ai pas fait le côté ouest, mais après avoir fait le nord et le sud, je pense comme toi en avoir vu suffisamment. Je n'ai pas spécialement envie de payer pour faire une attraction dans le canyon ou au-dessus, surtout vu les prix. J'ai juste un regret concernant le Grand Canyon. Une visite que j'avais notée, c'était les Havasu Falls, qui est une marche qui permet de descendre dans une des branches du Grand Canyon pour aller voir des chutes d'eau qui ont une couleur turquoise un peu laiteuse assez particulière. Ça a l'air d'être une très belle expédition. Il faut passer une nuit sur place chez les Navajos. Par contre, il faut réserver excessivement longtemps à l'avance. Je pense qu'on n'est pas loin d'un an à l'avance pour espérer avoir une place. Donc il faut s'y prendre vraiment, vraiment tôt. Nous, de toute façon, on n'avait pas le temps dans le road trip, donc la question ne se posait pas plus que ça. Ça ne rentrait pas dans le programme. Mais c'est une visite que je garde quelque part dans un coin de ma tête si jamais j'ai la chance de repasser par là.
De toute façon, avec notre chance et le fait que c'était la saison sèche, on serait arrivé là, il n'y aurait même pas eu d'eau.
Bah oui, une cascade, qu'est-ce qu'on espérait ?
Madame, un dernier conseil !
Oui ?
Quand vous arriverez à un canyon, nagez bien au fond, pas au-dessus !
Un canyon, bien au fond, pas au-dessus, d'accord, je m'en souviendrai !
Je pense qu'on a fait un peu le tour du Grand Canyon et du Zion National Park. On peut peut-être encore préciser que c'est le seul endroit des États-Unis où on a pu apercevoir des bisons. Il paraît même qu'il y a des bisons sauvages, même si on les a jamais vus. Si vous en avez vu, bah vous pouvez nous laisser un commentaire sur nos blogs respectifs. Moi, c'est sur noteauvoyageur.eu. Toi, Aurélie, c'est sur
sautdepuce.fr avec des tirets.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur iTunes, via le flux RSS ou même sur Spotify. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur iTunes pour nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Et dans le prochain épisode, on abordera la fin de notre road trip qui nous a emmenés jusque Page et Monument Valley, plus quelques bonus. On vous réserve encore quelques surprises. D'ici là, bon voyage.
Et à bientôt. House.